c'est une question que je me pose à propos des décisions qui ont été prises concernant la traduction de Hoy Judaeor, les Juifs. Quand il s'agit de distinguer entre les Judéens et les Juifs, tout à fait d'accord. Le problème pour les autorités juives, c'est le problème suivant. Prenons ce qui s'est passé au Conseil de sécurité quand il s'est agi récemment de prendre des décisions concernant la Libye. On a dit, les Américains, les Français, les Anglais ont voté pour, les Russes, les Chinois se sont abstenus. Tout le monde comprend ce que ça signifie, les représentants des autorités chinoises, des autorités russes. Mais personne n'aurait l'idée de remplacer les Chinois par les autorités chinoises.
D'accord.
Et le problème est de savoir si là, on n'a pas confondu, excusez-moi d'employer ce langage des linguistes, le sens du mot et sa référence. Or, autant je suis d'accord dans une proclamation de la parole où il n'y a pas de notes, où on ne peut pas expliquer, pour dire les autorités juives, pour que les gens ne se méprennent pas, autant quand il s'agit d'une traduction dans une édition avec notes, je pense que mettre les autorités juives là où le texte dit les juifs, c'est ne pas respecter ce qu'est une traduction. Et j'ajouterais que même du point de vue du dialogue entre chrétiens et juifs, cela est dommageable. Car nous avons derrière nous des siècles d'anti-judaïsme chrétien qu'il faut dépasser et condamner. Mais pour bien le condamner, il faut le comprendre. Et moi qui travaille sur les pères grecs, mais surtout latins, je me rends compte que justement parce qu'ils lisent dans Saint-Jean les juifs, cela les a poussés à un anti-judaïsme et on ne peut combattre que ce qu'on que ce qu'on comprend. Or, si vous supprimez la traduction, parce que si vous supprimez le sens des mots tels qu'ils sont dans le texte, vous ne comprenez plus pourquoi cet anti-judaïsme s'est développé.
Ce que vous dites là, vous pensez bien que vous en avez d'autres qui l'ont dit dans les commissions qui se sont réunies. Parce que là, vous reprenez le débat à la base. Alors, moi, je n'étais pas présent, ni Stéphane, d'ailleurs, pour cette commission-là. Donc, vous avez une commission qui a travaillé, qui a consulté tous les spécialistes de Jean sur le sujet, et y compris, on se heurte au problème de la traduction, exactement comme vous l'avez posé. Les prémices et votre argumentation, elle se tient parfaitement. Mais la décision du comité a été autre que celle que vous prenez. Mais voilà, c'est ça. Autrement dit, si vous auriez été dans le comité, et puis il y en a qui tenaient exactement la position que vous dites, vous auriez été mis en minorité.
Puisqu'il y a des notes.
Voilà. Mais tout à fait d'accord. On a préféré, mais peut-être que c'est conjoncturel. Dans l'état actuel aussi, de la compréhension du terme les juifs avec le contexte qui est celui de la fin du XXe siècle, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Je l'ignore, je n'étais pas dans le comité, qui font que la commission a décidé pour qu'il n'y ait plus d'aucune ambiguïté, donc j'allais dire on surligne, on surtraduit, pour le dire de cette manière. Mais j'allais dire tout à fait d'accord, sauf que je vois qu'ils ont, à mon avis, Ils se sont affrontés exactement au problème que vous avez. Et c'est donc, vous savez, dans toute traduction, vous avez quoi ? Vous avez le texte source, et puis vous avez les lecteurs. Alors, Pour le dire brièvement, c'est soit vous amenez les lecteurs vers le texte source, et vous faites une traduction qui se veut littérale, par exemple. Je pourrais dire comme exemple, je pense que c'est la Bible de Jérusalem, qui traduit assez littéralement, mais mieux en français, vous avez la Bible Hostie, si ça vous dit quelque chose, qui se veut assez littérale, ou la Bible de la prière. Et puis vous avez d'autres traductions qui, au contraire, amènent le texte vers le lecteur. C'est par exemple la Bible en français courant, ou la Bible de la liturgie. Comme vous l'avez fort bien dit, la Bible de la liturgie est faite pour être proclamée oralement, alors, il n'y a pas de notes, etc. Donc là, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à l'audition, eh bien, on va traduire parfois par de longues périphrases, deux ou trois mots. Et on traduit le sens général plutôt que les mots. Et par exemple, pour la Bible en français courant, on va limiter en plus le vocabulaire. On va couper les phrases, ce qui pour saint Paul est une espèce d'aberration. Mais on va quand même faire ça pour privilégier la compréhension par un public qui a de la peine à maîtriser le français, etc. Donc, eh bien, toute traduction varie entre ces ça. Soit on privilégie le texte source, soit on privilégie les lecteurs d'un fait. La Tob essaye de maintenir, je vais dire, un équilibre entre les deux. Alors, suivant les livres d'ailleurs, je peux vous dire que certains livres privilégient plus le texte, les lecteurs d'arrivée que le texte source. Je donne un exemple, les livres de Jérémie et d'Ézéchiel, par exemple. Dans la Tob, les livres de Jérémie et d'Ézéchiel sont... Ce n'est pas une traduction littérale. Et je peux le regretter personnellement. Les psaumes non plus. Personnellement, je n'aime pas les psaumes dans la Tob. Mais j'aime beaucoup les psaumes dans la traduction écuménique liturgique. Voilà. Mais ceci dit, voilà, je vous donne les éléments du problème. Il n'y a pas une bonne traduction. C'est un équilibre. Hein. Il y aurait une bonne traduction, ça se saurait. Merci en tout cas d'avoir posé la question. Oui.
Moi, j'avais un commentaire d'abord, c'est l'influence remarquable des recherches scientifiques, finalement, sur l'évolution d'une traduction d'un texte qui apparaît comme ça, inamovible, oui. Alors qu'en pratique, l'évolution des recherches archéologiques et scientifiques diverses font évoluer quand même assez significativement, finalement, la traduction qu'on peut faire. Ça, c'était juste...
Et à mon avis, c'est plus les orthodoxes qui sont ennuyés.
Oui, mais sinon ma question c'était par rapport aux participants protestants à votre groupe, de savoir comment ils ont réagi à l'introduction de nouveaux textes dans leur Bible de référence. Ça vous n'avez pas
tellement. Tu te souviens de ce qu'a dit Jean-Marc?
Non, sur des textes parasites.
Mais vous dites ce qu'a dit Valérie, par exemple, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'a dit Valérie?
Parce que la protestante que nous avons avec nous dans le groupe c'était baptiste. Donc, quand elle est tombée sur la prière de Manassé latine, cette prière, on le connaît. Après, dans les textes, par exemple, pour le texte de 4 Ezra, il y a des textes sur lesquels les anabaptistes ont fondé leur enseignement, leur doctrine sur le millénarisme. Donc, en travaillant sur les textes, ce que je vous disais, ils ont, à travers la Vulgate, leur présence dans la Vulgate, influencer toutes les catholiques et les protestants. Seulement que nous avons oublié d'où ça vient les influences. Donc, c'est le plus difficile, c'était pas seulement le travail, qu'ils ont compris pourquoi il fallait mettre du temps dans la Bible, parce que c'est une Bible écuménique, mais maintenant c'est le statut qu'on doit donner à ces textes dans la Bible. Et la question se pose. S'ils ont eu du mal à accepter les deutérocanoniques catholiques, maintenant. Pour introduire encore six textes à côté, ça ne change rien.
Oui, le plus gros, c'était le début en 65.
Maintenant, en ajoutant encore six, c'est bien.
Nous, on avait déjà accepté 9, on veut 6 de plus ou 6 de moins. C'est ce que certains disent. Hein, ils le disent avec un peu d'humour, et je pense que c'est vrai. Partiment où, et là, il faut remercier le bon Dieu, hein, ou Luther, je n'en sais rien. Mais si, parce que dans les histoires des éditions de la Bible, Stéphane a rapporté tout à l'heure que Luther, il est l'auteur d'un changement que la Taube a d'ailleurs repris. C'est-à-dire qu'il a ôté... Alors, vous aviez un ordre qui d'ailleurs n'a jamais été avalisé par aucune église et aucun concile. Qu'on a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, vous avez Juge, Josué, Samuel, le roi, puis ensuite vous avez Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Amos, Osée, et puis les 12, et puis ensuite vous avez Psaume, Job, Proverbe, etc., etc. Luther, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré les livres qu'on appelle deutérocanoniques, par exemple le livre de Ruth, dans la Vulgate, qui se trouve après le livre des Juges. Et si vous prenez la Bible de Jérusalem, c'est sa place. Le livre de Ruth est juste après le livre des Juges. Parce que le livre de Ruth commence par « Au temps des Juges ». Donc voilà, le livre est... Luther, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, alors, ce n'est pas pour le livre de Ruth en l'occurrence, mon exemple est mauvais. Il a retiré les livres de la place où ils étaient pour les mettre dans une section à part. Et pour lui, au point de départ, il n'était pas question dans sa... Il les a traduits, hein. Et Calvin aussi... Les éditions d'Olivier Thor ont les deux théocanoniques, qu'ils appellent apocryphes, mais ils sont dans une section entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ils ont été dans toutes les Bibles, à peu près, pas toutes, à peu près toutes les Bibles protestantes, jusqu'au XVIIIe siècle. Et c'est en fait au XIXe siècle principalement, sous l'influence des sociétés missionnaires, en particulier anglaises, que par des soucis d'économie, un, deux, eh bien, parce que ces livres étaient quand même secondaires, qu'on les a supprimés. Mais Luther disait qu'ils étaient bons et utiles à lire. Autrement dit, Luther aurait pu dire que c'était des anagnoscomena, c'est-à-dire des livres qu'on pouvait lire parce qu'ils étaient... il y avait du bénéfice. Et la prière de Manassé, il la mettait avec le livre de Judith et les livres de Maccabée. Et les catholiques... Donc les catholiques, jusqu'au début du XXe siècle, si vous avez des vieilles éditions de la Vulgate dans les sacristies par exemple, mais en latin, hein, je ne parle pas de traduction de la Vulgate, des vieilles éditions latines de la Vulgate, jusqu'au début du XXe siècle, vous avez en appendice, à part, après le Nouveau Testament, après le livre de l'Apocalypse, en plus petit caractère, vous avez le troisième livre d'Esdras, le quatrième livre d'Esdras et la prière de Manassé. Systématiquement dans toutes les éditions de la Vulgate. Autrement dit, c'était des livres qu'on disait, faut les lire. Et pourquoi est-ce qu'il fallait les lire? Et le pape Clément VIII le disait, c'est parce que les pères de l'Église les citaient. Et à partir du moment où les pères de l'Église les citaient, on ne pouvait quand même pas les balayer d'un revers de main.
Ceci dit, citer aussi Enoch.
Alors, vous posez une question que nous avons résolue ainsi. Le jour où il y aura beaucoup d'Éthiopiens en France, vraisemblablement, il va falloir que l'on intègre le livre d'Enoch. Parce que le livre d'Enoch est considéré comme un livre essentiel quand même, mais important pour les Éthiopiens. Et en 65, je veux dire, c'est là-dessus que les protestants à l'époque se sont dit, bon, mais quand même. Parce qu'il y a eu des discussions, hein, pour dire... Alors, cette discussion a abouti à quelque chose, je suis désolé d'être un petit peu long, mais a abouti à quelque chose qui est intéressant du point de vue du dialogue interreligieux. Ils se sont dit, bon, alors, comment est-ce qu'on va faire? Les protestants, ok, on accepte que dans la Taube, il y ait les deutérocanoniques. Mais alors, on refuse absolument qu'ils soient dans la place des éditions catholiques, parce que sinon, la Taube, ce n'est jamais qu'une édition catholique déguisée. Donc, on vous propose de les mettre... comme a fait Luther, entre l'Ancien et le Nouveau. Puis vous avez certains catholiques et protestants ont dit, mais non, on va faire mieux que ça. On va faire quelque chose qui n'existe dans aucune édition, ni catholique, ni protestante, c'est qu'on va prendre l'ordre juif. C'est-à-dire, si vous regardez la Torah, elle est en quatre parties. Le Pentateuque, les prophètes, et c'est intitulé « Les prophètes ». C'est-à-dire qu'on a supprimé les livres historiques. On a mis les prophètes, et à la façon juive, vous avez les premiers prophètes, c'est-à-dire Josué, Juge, Samuel et Roi, puis les deuxièmes prophètes, c'est-à-dire Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et les 12. C'est-à-dire que Daniel, qui chez les catholiques fait partie des prophètes, il a été déplacé pour être mis dans la troisième livre des écrits.
Les catholiques et les protestants. protestants, chez tous les chrétiens, Daniel fait partie des prophètes.
Oui, d'accord. Oui, mais Daniel a été mis, par les écrits. Et par exemple, le livre de Ruth, le Cantique des Cantiques, les Lamentations. Lamentations et Baruch ont été détachés de Jérémie pour être mis dans un ensemble qu'on appelle les cinq rouleaux. Donc voilà, on a finalement le choix d'écuménique a fait que la Torah a privilégié l'ordre juif. Et donc, après avoir mis l'ordre juif, c'est-à-dire les 39 livres, finalement, qui sont incontestés. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a les 39 livres juifs repris par les protestants. Tout le monde est d'accord pour dire que ça, ce sont les... Donc, on les a mis dans l'ordre juif, puis ensuite, on a mis quatrième partie, les deutérocanoniques. Et finalement, les protestants, encore une fois, mais je le dis en blaguant, mais je pense que c'est vrai, à partir du moment où vous avez accepté qu'il y ait 6 ou 7 livres deutérocanoniques, qui en est 15... Alors, Jean-Marc Babu disait qu'un de ses amis qui croit dur comme fer à l'écuménisme, c'est un chaud partisan de la Tobe, mais par contre, il a relié ensemble, justement, la partie 4 pour ne jamais les lire. Mais il utilise la Tobe, mais il ne les lit jamais. Moi, j'aimerais bien quand même qu'on les lise, hein, y compris nous, que les catholiques, on lise les livres qui nous viennent de la tradition orthodoxe. Hein. C'est intéressant de connaître... La période menacée, moi j'ai un protestant qui m'a dit, mais moi je ne suis pas d'accord du tout avec cette théologie. Hein. Ben oui. Donc, ça peut permettre encore des débats. Et pour moi, ça permet des débats, mais c'est quoi le canon? C'est-à-dire les livres qu'on dit normatifs. Vous avez les 39 livres incontestés. Moi j'aime bien, pour un peu, je sais, un peu, vaguement orthodoxe parfois. Pas pour la liturgie, je préfère la mienne. Mais pour la Bible, d'appeler les deutérocanoniques, c'est-à-dire cette manière, ces livres mouvants, cet ensemble mouvant, anagnoskomena, c'est-à-dire les livres qui sont bons à lire, qui sont autorisés à lire, mais qui n'ont pas une valeur dogmatique, moi ça me semble intéressant. Et ça crée, j'allais dire, un rapport différent avec les... On ne prend pas tous les livres comme un même paquet. Les catholiques, on est parfois un peu stricts, puisque tout a la même valeur. Plutôt, on dit que tout a la même valeur, mais en fait, tout n'a pas la même valeur. Parce que les catholiques privilégient les évangiles. Et ignorent quand même pas mal l'Ancien Testament. J'ai été un peu long, mais je termine par une toute petite chose. L'un des artisans de la Torah a été cause d'une chose originale que personne, sur laquelle personne n'a jamais remarqué. Le livre d'Esther existe en hébreu dans une version courte et en grec dans une version longue. La Vulgate, en latin, a privilégié la version longue. À partir du moment où on a fait des éditions scientifiques, en particulier dans la Bible de Jérusalem, qu'est-ce qu'on a fait? On a privilégié le texte hébreu, donc la version courte, et on a mis en italique les ajouts de la version longue. Autrement dit, vous avez, dans la Bible de Jérusalem par exemple, une espèce de mixte, mais qui en fait est un peu bizarre. Les gens de la Tobe ont dit, eh bien, écoutez, il y a deux versions, ben, on va les traduire toutes les deux. Le livre d'Esther, étant reçu comme un livre canonique juif, va être dans la classe des écrits juifs, et le livre d'Esther, qui est en grec, on va le mettre parmi les deux deutérocanoniques. Vous avez deux versions du livre d'Esther. Eh bien, ce gars-là le dit, alors qu'on a eu des tas de remarques sur le Pentateuque, les évangiles, etc., sur le livre d'Esther, on n'a rien eu, c'est à se demander si les gens les ont lus. Non, mais regardez ce que vous lisez, ce que nous préférons, ce que nous lisons dans les livres. Il y a des livres qu'on lit pratiquement jamais.
Le pasteur avait levé le...
Oui, allez-y.
Oui, d'abord, je voudrais partager avec vous le regret que la Tobe francophone n'ait pas trouvé de petits frères en anglais, en allemand, en espagnol.
Si, il y a eu un essai en allemand.
C'est dommage. Ça, c'est la première.
Mais toi, il lui connaît. Là,
je voudrais juste faire quelques remarques. Comme vous avez cité le Sola Scriptura de Luther. Oui. Si on le replace dans le contexte, Il y avait là le choix d'une arme, en quelque sorte, pour trouver une autorité qui battrait en brèche celle de Rome. Et donc, je pense que vous avez bien souligné le fait que c'est assez mitigé, finalement, comme position, à tel point que... Ensuite, le protestantisme a bien développé cette idée que certes l'écrit est là et nous précède, mais néanmoins quand nous le lisons, pour qu'il se passe quelque chose, il faut quand même qu'il y ait une nouvelle intervention qui vienne d'ailleurs. Et c'est bien pour ça que nous avons cette prière d'illumination à chaque fois que nous ouvrons le texte et que nous le lisons. C'est-à-dire que le texte, il n'est pas seulement inspiré dans sa rédaction, il est inspiré au moment où on lit.
Dans sa réception.
Les deux vont de pair. Du coup, ça donne une place un peu différente à l'écriture. À tel point que depuis, nous avons des éditions protestantes, si je peux dire, comme la Nouvelle Bible Seconde, qui développent aussi un apparat
de
notes et critiques et en volume équivalent, hein, pas forcément avec la même tonalité, mais en volume tout à fait équivalent à la top. Donc finalement, les Bibles protestantes sont aussi...
Je suis d'accord avec vous. J'aime beaucoup la Nouvelle Bible Seconde. Je l'utilise parce qu'elle est remarquable. Je regrette qu'il n'y ait pas les deutérocanoniques. Mais on m'a dit quand même que pour la Nouvelle Bible Seconde, justement, un certain nombre de protestants ne la lisent pas. En plus, ils ne lisent la Torah d'ailleurs. Hein. Justement parce qu'il y a trop de notes. Vous avez entendu dire ça aussi ?
Moi, personnellement, ce n'est pas du tout ma position.
Oui,
j'utilise aussi beaucoup, pas seulement les notes, mais les tableaux en catéchèse, oui, et il y a tout un tas de matériel là, qui est très utile, et donc de toute façon, c'est opérationnel, si on peut dire. Simplement, je voulais vous poser une question. Vous avez juste incidemment cité la Bible de la Pléiade, mais il me semble que parallèlement à ce qui s'est passé dans nos milieux chrétiens, il y a eu quand même le mouvement de cette Bible de la Pléiade, comme il y a maintenant la publication dans la même collection de tous les textes intertestamentaires, et je me demande jusqu'à quel point il n'y a pas une influence quand même aussi réciproque dans un sens et dans l'autre des deux mouvements. C'est un peu la question, et peut-être que au fond, cette publication des textes intertestamentaires ouvre en quelque sorte, ce que vous disiez, sur l'étendue du canon, mais on va s'en arrêter.
Oui, mais peut-être qu'on s'arrête là. Alors, en France quand même, les biblistes, il n'y en a pas tant que ça. Ceux qui ont travaillé à la Bible de la Pléiade, à l'édition des écrits intertestamentaires, ont aussi travaillé à la Tob, à la Nouvelle Bible Seconde. On va dire. Vous savez, on prend les mêmes et on recommence. Hein.
Mais le projet éditorial n'est pas tout à fait le même.
Non, c'est vrai. Mais par exemple, Pierre Joltrain, qui fut un des grands, un des grands artisans des écrits, pas des écrits intertestamentaires, des écrits apocryphes chrétiens plutôt. Hein. Pierre Joltrain fut un des maîtres d'œuvre de la Tob. Pour le Nouveau Testament.
Oui. Est-ce que les découvertes de Qumran, avec les nouveaux livres qui existent, enfin, qui sont très particuliers d'ailleurs, est-ce que ça a joué, disons donc, sur la Tobe?
Oui, ça a joué.
L'exemple, c'est, vous avez maintenant pour le psaume 51, donc dans la Nouvelle Tobe, vous avez le texte du psaume qui vient de la Septante et un autre. Et aussi le texte qui vient du Qumran. Parce que le texte du psaume 51 était retrouvé à Qumran. On n'a pas fait la même chose pour la prière de Manassé, parce que la prière de Manassé, on a une prière de Manassé qui est trouvée à Qumran, mais ce n'est pas tout à fait le même texte. Mais on a la prière de Manassé qu'on a trouvée dans l'église du Caire. Donc c'est le même texte du grec, mais en hébreu. Mais il y a une prière de Manassé même à Qumran. Mais ce n'est pas tout à fait le même texte, mais il y a une autre prière de Manassé. Donc, on a tenu compte beaucoup du Qumran. Et, par exemple, ils ont tenu compte beaucoup du Qumran, malheureusement, parce que pas tous les bouddhistes sont d'accord, pour le livre de Siracide, à la Tobe. Et parfois, vous trouvez des changements dans la traduction de Siracide par rapport au Qumran. Donc, deux choix de traduction par rapport au texte hébreu qu'on a trouvé à Qumran. Mais maintenant, je ne sais pas si vous êtes... Je viens de voir un documentaire qui vient de sortir sur Qumran, dans lequel maintenant, les experts pensent que là-bas se trouvaient en effet tous les juifs au moment de la destruction de Jérusalem, de la période de la guerre. Donc, sont des diverses communautés qui existaient à Jérusalem se sont réfugiées, sont allées à Qumran. Ils ont déposé leur texte en disant qu'après que la guerre passe, on vient trouver les textes. Donc tout ce qu'on a trouvé là, n'appartient pas seulement à une seule communauté, mais à plusieurs communautés. C'est pour ça qu'ils expliquent qu'on a plusieurs manuscrits, soit même plusieurs manuscrits sont libres et les manuscrits ne vont encore pas entre eux. Parce que chaque groupe qui existait à Jérusalem pouvait travailler son rouleau. Bon, ça, c'est les hypothèses.
Donc, mais comme dans les textes de la Septante, il y a peut-être des textes dont on a perdu donc l'original en hébreu, peut-être. Il y a des textes qu'on ne connaît qu'en grec, parce qu'ils sont dans la Septante. Oui. Mais si la Septante est une traduction, ça a fait quelque chose ou...
c'est pas. Déjà, la Septante n'est pas une traduction du texte hébreu que nous avons aujourd'hui.
Oui.
Déjà, ça, c'est sûr. Le problème, c'est que avec Qumran, on est arrivé à la conclusion que c'est la traduction du texte hébreu qui remonte avant celui que nous appelons maintenant masorétique. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Mais d'autre côté, ça ouvre aux études de la Septante. Donc l'intérêt de la Septante aujourd'hui vient qu'à travers la Septante, on peut remonter un texte hébreu plus ancien que le texte que nous avons d'abord. Mais pas tous les textes que nous avons dans la Septante ont à la base un original en hébreu.
C'est l'un des grands chantiers du rapport à la Bible du siècle qui vient, enfin des années qui viennent. C'est justement cette prise de conscience, et mieux prendre cette conscience, qu'il n'y a aucun texte original. Et qu'en fait, et les manuscrits de Qumran, l'existence de la Septante, sont là comme des indices pour dire que, entre le 3e siècle avant Jésus-Christ, à partir où on a des manuscrits, hein, et Qumran est un bon exemple, puisque c'est là qu'on a les plus anciens, disons, du 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ, qui nous fait quand même 6 siècles, eh bien, nous avons, pour les mêmes textes, des versions différentes. Voilà. Alors, ensuite, il a fallu... quand vous allez avoir le Sinaiticus, par exemple, n'apporte pas tout à fait. Stéphane a cité donc des grands manuscrits de la Septante, donc le Sinaiticus trouvé au Mont Sinaï, par rapport au Vaticanus trouvé au Vatican un peu par hasard pendant la Renaissance, le texte n'est pas tout à fait le même. Il y a des variations. Ça se comprend d'ailleurs parce que c'est pas, contrairement à nous, c'est pas la littéralité qui compte. Et puis, deuxièmement, il faut penser au support. L'imprimerie vous fixe le texte. Mais avant, avec le manuscrit, le texte, il peut changer. Il peut changer, mais pas simplement parce que le scribe a fait des erreurs, c'est aussi parce que, effectivement, dans la communauté, il le lit, c'est comme ça qu'il le comprend et qu'il le traduit. Et qu'il le transmet. Puis après, vous avez d'autres phénomènes plus complexes encore.
De façon à ce que nos intervenants puissent regagner leur pénate, je crois qu'il y a encore une ou deux questions, donc on va les prendre et puis après on s'arrêtera.
J'ose mes questions malgré le fait que ce soit un petit peu tard, mais aussi que je suis pas ici, et qu'il va de soi qu'on ne peut pas nos autres si on n'a pas une question. Et s'il n'y a pas une instruction reçue, même si on n'a pas à cet endroit-là aussi, il faut transmettre en plus, même si on est chrétien, on peut transmettre ayant déjà été instruit et ayant compris le sens du texte. Donc je confirme cet aspect-là. Je voudrais dire aussi que, vous l'avez dit en à demi-mot, mais la version des Septante montre que, comment dire, élargit le texte reçu par le Tanakh, par la version juive. C'est une autre école de transmission de la Bible. Il y a l'école d'Alexandrie. Et c'est vrai qu'on a affaire à des textes, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, beaucoup plus large, beaucoup plus complet que dans la version juive, qui apparaît une version un petit peu épurée, en tout cas en livre.
Ah ben, pour Jérémie, par exemple.
Oui. Alors, là, je n'ai plus les choses en mémoire, mais on peut faire ce constat-là.
Oui, tout à fait. Voilà.
Il y a une petite phrase que j'aimerais comprendre dans ce que vous avez dit à propos des livres de terre canonique, et ensuite poser encore une deuxième petite question. Vous avez dit à un moment donné, même s'ils n'ont pas d'autorité, ces livres-là, ils sont inspirés. Alors, personnellement, ça me pose un gros problème, parce que je crois à l'inspiration de la Bible, dans les livres inspirés, mais on ne va pas rentrer dans le débat. Et quand j'entends le mot inspiré, j'entends inspiré de Dieu.
Oui, c'est...
Du Saint-Esprit. Donc, s'ils sont inspirés du Saint-Esprit, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse proposer en face une question d'autorité, alors qu'on les croirait inspirés, même si la question de l'inspiration, qui détermine cette inspiration, est une véritable question. Là, j'ai besoin d'être éclairé. Puis une deuxième petite question. On avait, de mémoire, hein, parce que les choses sont anciennes pour moi, on a toujours distingué les livres deutérocanoniques, me semble-t-il, des pseudépigraphes. Et j'ai l'impression que dans ces six livres, on a affaire à des pseudépigraphes aussi. Est-ce que je me trompe? Et on a toujours distingué entre les deux, y compris dans les livres protestants.
Je commence avec la deuxième, avec le pseudépigraphe, donc c'est un terme moderne, n'est jamais utilisé, donc on a une spécialité, on a utilisé ce terme, on voulait utiliser ce terme pour la taupe, on a un spécialiste en protestant qui a écrit un article qui nous a envoyé en disant que ce terme ne se trouve pas avant l'époque moderne pour cet écrit. Donc c'est inventé, il vient d'être inventé il y a 100 ans, 200 ans, quelque chose comme ça, donc on ne le trouve pas dans la tradition de l'Église, n'a jamais existé le mot pseudépigraphique. Le pseudo-épigraphique, c'est tout, mais pour Saint Paul, on peut dire que pour l'Apocalypse, la cette catégorie est trop large pour mettre seulement les deutérocanoniques. Donc les deutérocanoniques, on ne peut pas dire seulement le pseudo-épigraphique.
Voilà ce qu'on a mis dans la page 1634. Alors c'est le professeur Rémy Gounel qui a orienté là-dessus. Le terme pseudo-épigraphe, entre parenthèses, livre, fictivement attribué à un personnage célèbre, est quasiment inutilisé par les chrétiens avant l'époque moderne. Il est aujourd'hui de plus en plus employé par les spécialistes pour désigner certains apocryphes ou deutérocanoniques. Alors, Énorme, dont on a parlé tout à l'heure, c'est un livre pseudépigraphe.
Voilà, c'est cette distinction dont je parle.
Esdras, le 3e et 4e Esdras sont des livres pseudépigraphes.
Voilà, mais ça m'a parlé d'une distinction majeure dans le sens de la transmission du livre. Et de l'intérêt porté au livre, même si le terme n'existait pas auparavant. C'est juste pour savoir si.
Je ne suis pas sûr que ça donne plus d'autorité qu'il soit pseudépigraphique. Le livre de Judith n'est pas le fait de Judith, c'est simplement l'héroïne Judith. Il a de la valeur en soi, même s'il n'est pas pseudépigraphique. Je dirais, pour les catholiques et les orthodoxes, son autorité est égale à tous les autres livres. Et c'est pas le premier livre d'Esdras, n'est pas d'Esdras particulièrement, pas plus que le deuxième, le troisième et le quatrième. Le fait qu'il soit pseudépigraphique ne leur donne pas une autorité supérieure. Mais je comprends bien que d'avoir donné un nom, d'avoir dit à ces livres, on les rattache à M. Esdras, lequel a laissé une grande mémoire, effectivement, ça leur donne une autorité pour la communauté qui les lit. Ça, il y a... Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça se joue. Voilà. À partir du moment où ils sont déjà dans le cœur, me semble-t-il. Et toi, tu voulais sur la première, hein, qui est assez importante. Sur l'inspiration.
Je comprends très bien. Parce que toutes ces questions sont déjà des questions auxquelles on a répondu dans notre milieu. Dans notre comité scientifique, il y avait toujours cette question, comment se fait de dire que c'est... Je voulais seulement vous donner à citer un exemple, c'est avec le moment dans les Actes des Apôtres, avec Paul, quand il cite un verset du psaume de la Septante. Donc dans les Actes, il cite un verset du psaume de la Septante, donc dans les Actes, il est inspiré, donc il est cité, le Seigneur... quand il dit, et tout ne laissera pas ton sang connaître la décomposition. Donc, c'est Saint Paul qui cite la psaume de la Septante. Donc, ici, ce psaume qui vient de la Septante, on le considère inspiré, mais il vient de la Septante, il ne vient pas de texte hébreu. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est un peu, pour nous, la Septante est un temps inspiré.
Je crois que pour les orthodoxes, il n'y a aucun problème.
Pour nous, comme la Septante est inspirée, tout ce qui est dedans, c'est inspiré. Maintenant, on parle au niveau cette inspiration, est-ce qu'elle est seulement pour la Septante? Je viens de dire, même pour nous, les lettres du Saint Ignace d'Antioche sont inspirées. parce que on le lit dans la tradition, il a eu toujours cette inspiration. Une inspiration ne s'arrête pas comme dans le monde, ce que vous étiez, on est inspiré. Donc tout ce qui se passe dans l'Église, c'est dans l'Esprit Saint. Donc oui, c'est pas qu'on met une limite d'inspiration. C'est pas le même canon en disant oui, ça inspiré ou non.
C'est la
difficulté de l'inspiration. Après, ce qui concerne l'autorité, c'est une autre chose.
Oui.
Parce que pour l'inspiration, chez nous, on l'appelle synergie. Donc, quand vous dites que c'est inspiré, la question que nous posons, c'est combien vient de Dieu, combien vient de l'homme. Est-ce que c'est 130%? Donc, si toute la Bible s'est inspirée, est-ce que 50% c'est Dieu, 50% c'est l'homme? Si vous mettez, est-ce que le livre de Psaume a la même inspiration que le livre des Chroniques? Ou le livre de Numère, le Nombre, a la même inspiration que le livre de Deutéronome? Donc, vous voyez, on dit que tout est inspiré, oui, inspiré, mais combien?
Tout est inspiré, mais tout n'a pas la même autorité.
N'a pas la même autorité. Est-ce que vous lisez le livre de Chroniques comme le livre de Psaume? Non, on lit tous les psaumes parce qu'on sent qu'ils sont inspirés. Mais lisez les prières avec les chroniques, est-ce que vous arrivez? Non, on a essayé, on n'a pas arrivé. Dans la liturgie catholique, on ne lit pas le livre de Nombre. Pourquoi?
Ah bon?
On ne fait pas les généalogies. Donc, Donc c'est l'orthodoxie se positionne sur le fait que l'inspiration peut dépasser, même les pères de l'Église ont dit qu'ils sont inspirés, c'est ça le problème chez nous. Mais l'autorité reste au texte hébreu canonique. Peut-être que, parce que dans l'Église catholique, cette autorité est passée même pour les deutérocanoniques. C'est pour ça qu'ils ont inventé ce terme deutérocanonique, il n'existait pas avant le Concile de Trente. Ils devaient donner en place à ces livres, donc. Est-ce que ces livres de deutéronomie sont inspirés? Oui. Mais alors pourquoi ils sont deutéronomiques?
Parce qu'ils sont. Parce qu'on s'est rendu compte un peu tard qu'ils étaient inspirés dans un deuxième. Et toi-même, tu es.
Parce qu'ils n'ont pas de texte hébreu.
Pardon, parce que.
Parce qu'ils n'ont pas de texte hébreu. Mais on vient de dire qu'ils n'en avaient pas à l'époque.
Oui, ils n'en avaient pas à l'époque, tout à fait.
Parce qu'il y en a certains pour lesquels on a trouvé depuis. Un texte hébreu.
Oui, alors ben, c'est le Siracide dont
en particulier.
En partie.
Je crois que je peux distinguer ce qu'on aime les protestants, parce que
oui.
Le protestantisme, c'est très très large.
Oui.
Ce n'est pas que le protestantisme, n'est-ce pas?
Oui.
Je crois que pour un bon nombre de protestants, les trucs hébreu-canoniques ne sont pas inspirés.
Oui, tout à fait, oui, tout à fait.
À lire, à prendre
oui.
Au sérieux, de sagesse, mais ils ne sont pas inspirés.
Oui.
Et il me semble que assez souvent, en tout cas dans certains milieux protestants, c'est la question de l'inspiration. Toute écriture est inspirée de Dieu, qui donne la notion d'autorité.
Oui.
C'est pour ça que je.
Oui, mais la question est intéressante, mais votre question elle est capitale parce qu'elle est valable aussi pour les catholiques. Elle est valable pour les catholiques, et on a pris soin de dire dans la tome que c'est pas parce que ces livres sont, que les livres orthodoxes sont dans la tome parmi les deutérocanoniques qu'il faut les considérer désormais comme des canoniques. Pour les catholiques et les protestants, 3-4 Maccabée, 3-4 Esdras, prière de Manassé, psaume 151 ne sont pas inspirés. Voilà. Ils sont là parce qu'il y a une église néanmoins qui les reçoit. Et ça nous perturbe un peu. Voilà. Mais moi j'ai eu un peu de peine, enfin c'est de travailler sur les projets de tome. Désormais moi je distingue, mais j'ai un peu de peine encore à le faire, entre inspiré et autorité. Voilà. Mais je pense qu'il y a, à mon avis, la présence de ces livres-là, une réflexion sur le statut de ces livres, alors qu'on appelle apocryphe d'un côté ou deutérocanonique de l'autre, pourra nous aider peut-être à mieux comprendre ce qu'est au juste un livre inspiré. Mais la question n'est pas simple. Hein.
C'est l'inspiration qui donne l'autorité.
En fait, non. C'est parce que ce livre a été reçu qu'on a dit qu'il était inspiré. Historiquement, c'est comme ça que ça se passe.
Ça donne une ambiance.
Ça donne une ambiance.
Bien oui, une ambiance de la vie à ces époques-là. Oui, et ça alimente les interprétations.
Oui, ça vous donne des idées sur le milieu.
Un autre exemple, c'est pour le monde catholique, ou pour l'orthodoxe, c'est toutes les fêtes qui sont liées à la Vierge. Donc, tout vient d'un livre apocryphe, qui n'est pas compris dans les canons, ni n'a pas d'autorité, mais tout ce que nous avons sur la naissance, la présentation d'un temple, et sur l'histoire de la Vierge qui vient de cette
Et le Pont Évangile de Jacques n'est pas inspiré. Pas un départ, oui. En rigueur de terme, on dira jamais, enfin en catholique, on dira jamais que le Pont Évangile de Jacques est un livre inspiré. Mais aujourd'hui, enfin parmi les savants, parmi les théologiens, on essaye d'employer avec réserve le terme inspiré. Parce que justement, on se rend bien compte, et y compris, justement, à cause de ces livres frontières-là, qu'il y a une petite difficulté à comprendre. Un théologien contemporain dit, c'est pour répondre à Christophe Théobald, dit qu'un livre est inspiré parce qu'il est inspirant. C'est parce qu'un livre a inspiré des conduites, des pratiques, des relectures, des discours, une conception de Dieu, que l'on peut dire qu'il est inspiré. Autrement dit, nous ne savons pas. Je veux dire, il y a peut-être des livres qui ont été inspirés par Dieu et qui ont disparu dans les sables. Mais j'allais dire, comment je vais le savoir, puisque justement ils ont disparu? Ce que je comprends, c'est qu'un certain nombre me sont donnés par la tradition d'Église comme étant parole de Dieu. Et puis qu'il y en a quelques-uns sur lesquels, et la tombe le montre, ben on se dit, ils sont parole de Dieu, ils ne sont pas parole de Dieu. Le problème, c'est qu'il n'y a rien d'hérétique. C'est qu'il n'y a rien qui est contre la foi de l'Église ou des premiers pères de l'Église. Alors que dans le premier évangile de Jacques, vous avez un ou deux passages qui sont plus de l'ordre du merveilleux. C'est pour ça qu'on les a laissés de côté. Quand bien même ça a pu inspirer des artistes ou des fêtes de la liturgie.
La Didaquée, par exemple, est-ce qu'elle est inspirée ou pas?
Eh bien, alors...
Elle a fait partie du canon.
Elle a fait partie du canon.
Jusqu'à l'époque, elle était dans la...
Le pasteur d'Hermas a fait partie du canon. Le livre de l'Apocalypse est lu en Occident et n'est pas lu en Orient jusqu'à la prise de Constantinople.
Alors il y a un va-et-vient.
Mais alors, il y a quelques livres frontières, et ce sont ces livres frontières qui sont intéressants pour réfléchir justement. Alors, j'ai vu que tu avais l'article de Hugues là, que on avait dit là-dessus, mais voilà, c'est ça. Un disciple de... Alors, certes, ces livres sont non canoniques pour les protestants comme pour les catholiques. Il est plus difficile d'affirmer de façon péremptoire qu'ils sont non inspirés. Un disciple de Saint Ambroise a avancé une formule qui fut beaucoup commentée au Moyen Âge. Je vous la donne pour ce qu'elle est. Je vous la donne en français. Toute vérité, quel que soit celui qui l'a dit, est dite par l'Esprit Saint. Toute vérité, quel que soit celui qui l'a dit, est dite par l'Esprit Saint. La question c'est, ah ben voilà, alors on va recommencer, c'est Pilate, etc. C'est une manière de dire, pour ne prendre qu'un exemple, les lettres d'Ignace d'Antioche, quoique très anciennes, ne sont absolument pas canoniques, alors qu'elles remontent au début du deuxième, mais sont peut-être antérieures au livre de l'Apocalypse. Eh bien, quoique très anciennes, elles ne sont pas canoniques, mais qui oserait dire, vu leur importance sur le ministère sacerdotal, tant en Orient qu'en Occident, qu'elles n'ont pas été dites par l'Esprit Saint. Le pasteur a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, c'est que... c'est intéressant que ce soit vous qui disiez en l'occurrence, parce que les catholiques ont découvert ça plus récemment, c'est-à-dire que l'inspiration est aussi aujourd'hui du côté des lecteurs. Et c'est pourquoi la prière d'illumination, elle est très intéressante, je trouve. Hein. Parce que c'est-à-dire qu'on ne lit pas le texte biblique comme n'importe quel autre. On peut les lire comme n'importe quel autre texte. Mais quand on est croyant réuni en Église, pour se nourrir d'eux, il faut la prière d'illumination. Bon, écoutez, vous nous amenez sur des... Il faudra un jour faire un débat sur l'inspiration. Hein, parce qu'il y Il y a tant de choses intéressantes à creuser.
C'est individuel, on ne peut pas généraliser. Bon, alors, je crois qu'on va.